Les dessous de l'Infox. François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale.
Les dessous de l'Infox.
Tous ceux qui s'inquiètent de la profusion des infox sont d'accord pour admettre que la lutte contre la désinformation passe par l'éducation. Il faut donner au grand public les moyens de distinguer clairement le vrai du faux. La jeune génération est particulièrement concernée et les éducateurs disposent aujourd'hui des outils nécessaires pour enseigner à ne plus se laisser berner par les fausses informations. On en parlera avec Patrick Chenu, il est directeur général de la CMJCF, la Confédération des MJC de France, qui vient de sortir justement un nouvel outil pour l'éducation aux médias et aux infox. Non, l'ADN mitochondrial des femmes noires ne présente pas toutes les variations génétiques possibles. Les explications tout à l'heure de Marion Lefebvre, elle est journaliste à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse. Mais tout de suite, on retrouve Sophie Malibaud. Les dessous de l'Infox, la chronique nous emmène aujourd'hui à Abidjan, où se tient en ce moment même le troisième sommet des Africtivistes, la Ligue africaine des blogueurs et web activistes pour la démocratie. Alors tout le continent est représenté, mais aussi les diasporas et quelques figures internationales du journalisme d'investigation. Leur ennemi commun, la désinformation sous toutes ses formes. Sophie Malibaud est sur place. Bonsoir. Quel est le but, Sophie, de cette rencontre ?
L'idée, c'est que l'Afrique ne doit pas subir la révolution numérique, elle doit s'en emparer et en tirer le meilleur profit. Et c'est à cela que les activistes qui se retrouvent ici travaillent au quotidien. Mais ils ressentent un furieux besoin de serrer les coudes parce que leurs activités sur le web leur valent toutes sortes d'ennuis. Ils contribuent à travers leur blog à dénoncer les injustices sur le terrain social, la corruption, les conflits d'intérêts, la répression politique, les abus de pouvoir, le sexisme, les discriminations, la liberté d'expression bâillonnée. Et c'est d'ailleurs pour rendre hommage à tous les activistes tombés au combat qu'à chacune de leurs rencontres, ils gardent symboliquement une chaise vide.
Et comment ces blogueurs mènent-ils leur lutte contre la désinformation ?
Alors il n'y a pas ici au sommet d'Abidjan les influenceurs qui n'ont besoin de personne pour récolter des milliers de clics et s'en mettre plein les poches en diffusant des infos aussi mensongères que spectaculaires. La priorité pour les africtivistes, c'est l'engagement social. Leur intérêt, c'est donc de coller à la réalité. Mais ce n'est pas facile. Il y a un besoin de formation et puis la recherche d'un modèle économique viable. Il y a des pays comme le Kenya où les blogueurs ont pris l'ascendant sur des moyens d'information traditionnels discrédités, mais certains de ces blogueurs se font acheter par les politiques ou par des sociétés privées pour diffuser un narratif bien particulier. Alors c'est un danger contre lequel les blogueurs doivent se prémunir et c'est pour cela que les africtivistes aspirent à davantage de soutien institutionnel. Ils ne veulent pas se laisser enfermer dans une approche de confrontation, ils se veulent force de proposition en toute indépendance.
Et est-ce que ce mouvement africtiviste est représentatif d'une tendance actuelle forte ?
En réalité, c'est une avant-garde hyper connectée quand même. Et d'ailleurs, c'est un sommet plurilingue, anglo et francophone. Il n'y a pas de profil type. Il y a des femmes blogueuses, jeunes et moins jeunes, impliquées dans leur communauté, un rappeur congolais en exil, des responsables d'associations de blogueurs dans des pays en plein conflit, d'anciens journalistes en quête de liberté d'expression. Et puis des bénévoles qui s'engagent pour répandre leur savoir dans les villages les plus reculés. Comme Fatima, engagée dans un programme au Niger, effarée de voir à quel point les décisions municipales cruciales dans la gestion de la crise sanitaire peuvent être contrecarrées par la désinformation qui circule sur WhatsApp. Tout se passe sur WhatsApp. Alors c'est un défi, une course contre la montre. Pour voir les bénéfices de l'Internet, il faut améliorer les infrastructures. Mais les avancées technologiques nécessitent de gros efforts d'éducation aux médias. L'humain reste primordial pour éviter que la fracture numérique ne débouche sur une catastrophe.
Les dessous de l'Infox.
Sophie Malibaud en ligne d'Abidjan. Merci, à la semaine prochaine. Difficile. difficile de ne pas se laisser abuser par de fausses informations. Les infox se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux. Il devient donc indispensable d'éduquer les jeunes à une lecture critique et distanciée des médias. La communauté éducative était démunie dans cette nouvelle mission. Pour lui venir en aide, la Confédération des maisons de jeunes et de la culture de France a créé des outils de réflexion, d'explication, de décryptage sur la désinformation.
On en parle.
On en parle avec Patrick Chenu, le directeur général de la CMJCF, c'est la Confédération des MJC de France, qui est à l'initiative justement de ce nouvel outil pour l'éducation aux médias et aux infox. Bonsoir Patrick Chenu.
Bonsoir.
Alors, vous proposez 6 approches pour aborder cette délicate question de la désinformation. On va profiter de ces 10 minutes d'entretien pour les évoquer toutes et comprendre la démarche que vous proposez et la vigilance que vous suggérez. La première de ces approches, c'est les émotions et la manière de percevoir les informations. Et pour en prendre conscience, vous proposez une expérimentation. Laquelle ?
Oui, on sait tous que la manière dont on ressent les choses affecte la manière dont on les comprend. Et pour ça, nous proposons aux jeunes avec lesquels nous allons travailler dans le cadre de cet outil pédagogique des infox, un article de journal qu'on aura fabriqué, qui est fabriqué sur mesure, et on va les interroger sur, après la lecture de cet article, donc qui est un faux, hein, voilà, en l'occurrence, quelle émotion cet article aura suscité chez eux et qu'est-ce qu'ils ont fait de cette émotion et quel sens de lecture de cette information ont-ils eu avec cette émotion, comment cela a-t-il pu affecter leur regard sur l'information qui leur a été transmise. On appelle ça notre module affect et savoir.
Voilà. Alors vous suggérez également une approche historique pour comprendre l'ancienneté du phénomène.
Oui, les infox existent depuis toujours, c'est-à-dire que ce qu'on propose, c'est un certain nombre d'infox célèbres. On prend par exemple, on sait très bien que le nuage radioactif suite à l'accident nucléaire de Tchernobyl s'est arrêté aux frontières. Voilà, ça permet à un moment de replacer ça. On sait aussi que des infox ont été utilisés par exemple avant le débarquement en Normandie pour faire croire aux nazis à l'époque que les débarquements pourraient se faire dans le Pas-de-Calais. Donc on propose aux jeunes qui vont suivre cet outil de replacer un peu ces infox dans l'histoire, mais avec toujours une question à la clé, c'est à qui cela profite-t-il ? Quel est l'intérêt derrière, entre guillemets, à qui profite le crime ? C'est-à-dire qu'il y avait bien un enjeu derrière cet infox, et donc il y a bien la question de comprendre pourquoi. Donc on resitue à la fois dans l'histoire et bien évidemment on rétablit la réalité, la véracité des faits.
Le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté aux frontières, on le sait.
Par exemple.
Alors, numéro 3, une approche scientifique pour mesurer la fiabilité d'une source et classer les informations par niveau de fiabilité. Vous prenez un exemple ? Comment lutter contre la piqûre du moustique ?
Oui, alors on a une petite mascotte dans cet outil pédagogique qui prend la forme d'un certain nombre de panneaux et d'objets. C'est le moustique, et comme sujet, entre guillemets, un peu anodin que nous avons choisi, c'est comment est-ce qu'on lutte ? Qu'est-ce qui est efficace contre les piqûres de moustiques ? Et ça nous permet de travailler sur l'échelle des preuves. En gros, à quoi va-t-on accorder le plus de crédit ? Et on propose un certain nombre d'hypothèses qui permettent de savoir comment lutter contre ces piqûres de moustiques. Est-ce qu'on va croire en gros ce que nous a raconté notre grand-mère sur son remède miracle ? Est-ce qu'on va plutôt faire confiance à des avis scientifiques ? Est-ce qu'on va plutôt faire confiance à des paroles rapportées ? On m'a dit que. Ou est-ce qu'on va faire confiance plutôt à des experts ? Donc on propose aux jeunes de classer à un moment ces preuves dans les différents domaines pour mieux comprendre le sens que l'on accorde et le crédit que l'on accorde à cette preuve.
Vous évoquez aussi une approche linguistique, les effets du langage, comment la forme d'un discours peut supplanter le fond. Alors expliquez-nous ça.
Oui, alors on sait tous que quand on écoute des discours qui soient politiques ou qu'on écoute des messages à caractère publicitaire, on emploie un certain nombre de figures de style qui cherchent à un moment à enfermer la personne à qui ce discours est destiné dans une certaine réalité, à lui faire comprendre un certain nombre de choses. Donc pour ça, on peut utiliser des générations abusives, toutes les femmes, etc. On peut faire appel à l'ancienneté. Nous avons toujours... on peut utiliser une pente glissante. Voilà. Et l'idée, c'est de faire travailler, en utilisant ces figures de style, un débat aux jeunes avec cet outil des infox. Et ensuite, en regard, d'autres jeunes vont être spectateurs et décrypter les mécanismes et les figures de style utilisées. Bien évidemment, ça se mêle très bien avec des enseignements de français, de grammaire.
Et l'approche journalistique, alors vous proposez aux élèves de se glisser dans la peau d'un journaliste pour comprendre les notions d'angle, de vérification des informations, de croisement des sources. Comment vous abordez ces trois notions qui sont des fondements de la démarche journalistique ?
Bah là encore, on se met en situation, c'est-à-dire qu'on part d'un événement. Nous avons reçu une dépêche AFP, il y a eu une explosion à la piscine. Et à partir de là, les jeunes reçoivent des éléments de preuve, de témoignages. Vous avez le témoignage des agents de la piscine, vous avez le constat des pompiers, vous avez le regard du préfet, vous avez les voisins, vous avez les gens qui ont entendu. Et charge à chaque équipe de constituer la une d'un journal papier. Et donc, elle va choisir quel crédit elle accorde, c'est un peu le module de fin, entre guillemets, quel crédit elle accorde aux différents éléments qui ont été, quel choix éditorial elle a fait, qu'est-ce qu'elle met en valant, quel titre elle choisit, et comment est-ce qu'elle résume cette situation. Donc, c'est se mettre dans la peau d'un journaliste pour mieux comprendre les mécanismes qui permettent comment on fabrique une information aujourd'hui.
Alors, dernier point, nous en avons évoqué cinq, le sixième, c'est la mise en pratique. Vous proposez une analyse critique de courts-métrages d'étudiants en physique-chimie portant sur des sujets scientifiques.
Oui, on a travaillé dans la conception de l'outil avec des étudiants en physique-chimie. Alors ça, pour le clin d'œil, ça s'est fait avant la pandémie et ils ont notamment travaillé sur la vaccination. Et donc on propose aux jeunes, à partir d'un petit court-métrage qui a été réalisé, de porter un regard dessus, de l'analyser, de le comprendre et de mener un regard critique sur ce point-là. Mmh.
Vous êtes dans le concret, de manière systématique. Comment vous avez mis en place ce projet pédagogique ?
Il est né d'un outil pédagogique précédent qui avait travaillé les MJC autour de savoir comprendre agir pour dire non à la haine. On avait constaté qu'il nous manquait un outil dédié à spécifiquement la fabrication de l'information et des infox, et notamment sur les réseaux sociaux. Et cet outil a été fabriqué à la fois par des animateurs du réseau des maisons de jeunes et de culture, donc il n'est vraiment pas autonome, ce n'est pas une exposition, c'est vraiment un support d'animation, un support éducatif, mais aussi avec des journalistes, avec des scientifiques, avec des experts. Et c'est le travail de 2 années d'élaboration. On l'a pensé, je veux dire, le plus pédagogiquement possible. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il sert vraiment de support d'animation en tant que tel. Donc voilà, c'est tout un collectif qui a été mené au niveau de la Confédération et on a confié à des experts de nos régions en matière d'animation, d'action jeunesse, l'utilisation de ce type d'outils, la fabrication de ce kit qui a reçu le soutien de nos partenaires publics, en l'occurrence le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports, le ministère de la Culture et la Caisse nationale de l'allocation familiale. Donc, un vrai soutien d'État sur la fabrication de cet outil.
Et sous quelle forme alors et dans quel lieu vous intervenez auprès des jeunes gens ?
Alors, on le déploie majoritairement en milieu scolaire, mais on peut le déployer aussi dans des lieux, bien évidemment, notre réseau de MJC, mais différents lieux. C'est un outil modulable, on n'est pas obligé d'utiliser les 6 modules en une fois, et on peut le dimensionner, l'approfondir en fonction de l'âge des publics. C'est-à-dire que ça marche aussi bien avec des collégiens que des lycéens, mais on ira plus ou moins loin dans les différents modules. Là, notre ambition pour nous, c'est de former 100 000 jeunes dans les prochaines années au décryptage des infox à partir de cet outil.
Et vous sentez que vous créez de l'intérêt auprès des jeunes pour cette démarche de compréhension du phénomène infox ?
On a fait un lancement à la fin du mois de septembre à la MJC, à la Maison de Jeunes et de la Culture de Conflans-Sainte-Honorine, et on a travaillé avec une classe de lycée. Là, on est vraiment au début du déploiement de l'outil, et les retours des élèves étaient assez unanimes, après notamment le drame vécu, bien évidemment, et cet horrible attentat terroriste, qu'il y a besoin d'avoir ces moments de recul et de comprendre comment l'information arrive, de faire ce petit pas de côté, de développer son discret critique, et ça a été plutôt très très bien reçu par les jeunes avec lesquels nous travaillons.
Donc vous intervenez dans des lycées, dans des collèges, mais aussi dans des MJC, c'est le même public que vous retrouvez à chaque fois ?
Oui, ça dépend. Alors après, on peut travailler avec les publics qui fréquentent les accueils jeunes de nos associations. On peut travailler avec effectivement une classe, en général plutôt en demi-groupe. On prépare ça avec les enseignants aussi quand on intervient en milieu scolaire. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent bénéficier, bien évidemment, à un public le plus large possible.
Donc vous intervenez auprès des lycées, des publics des lycées, des MJC, mais vous me disiez lors d'un entretien précédent que cet outil va aussi servir à former vos propres formateurs en MJC.
Tout à fait. C'est-à-dire que c'est, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un outil autonome, c'est un outil qui s'anime, mais travailler la question des infox, et vous le savez mieux que personne, est un sujet complexe et nécessite d'être formé à ces questions-là. Donc nous déployons aussi des formations à destination des animatrices et animateurs de notre réseau qui nous ont dit qu'ils étaient relativement démunis face à ces questions des infox. Donc ça va aussi être un élément qui va nous permettre de mieux qualifier nos professionnels, je dirais, dans le quotidien de leur action avec des jeunes où on sait que la prégnance des infox est extrêmement forte. forte.
Patrick Chenu, directeur général de la CMJCF, la Confédération des MJC de France, à l'initiative donc de ce nouvel outil pour l'éducation aux médias et aux infox. Merci de vos explications. Bonsoir Marion Lefebvre, journaliste à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, vous revenez sur une intox, une infox scientifique.
Oui, une intox qui parle d'ADN, de mitochondrie et d'évolution. Nous avons en effet repéré plusieurs publications très virales qui prétendent que l'ADN des mitochondries chez la femme noire présente toutes les variations qui existent chez les humains. Ainsi, selon cette rumeur qui a été partagée plusieurs milliers de fois depuis au moins janvier 2020, cette particularité serait due à un certain gène que toutes les femmes noires posséderaient, le gène DEV.
Oh là là, c'est compliqué. Il faut quelques explications sur ces notions scientifiques, sinon on est perdu.
Alors, l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, porteur de l'information génétique, qui se trouve majoritairement dans le noyau des cellules qui nous composent. Les mitochondries, ce sont des éléments qui se trouvent à l'extérieur du noyau, dans la cellule, et qui contiennent elles aussi un peu d'ADN. C'est ce à quoi on fait référence quand on parle d'ADN mitochondrial.
Et il y aurait un lien entre cet ADN et le gène DEV que vous venez d'évoquer ?
Mais il n'y en a pas, car le gène DEV n'existe tout simplement pas. En fait, les publications virales relaient une interprétation trompeuse d'une réalité scientifique établie, celle de l'existence de l'Ève mitochondriale, une ancêtre commune à toute l'humanité, très probablement noire, qui vivait en Afrique il y a environ 200 000 ans. Son existence a été démontrée en 1987 par trois scientifiques dans un article publié dans la revue américaine Nature. Ils ont prouvé que l'ADN mitochondrial de tous les humains sur la planète avait pour origine celui de cet aïeul qui vivait en Afrique il y a 200 000 ans.
Et c'est cette femme qui a été baptisée Ève mitochondriale.
Alors, c'est le problème, le surnom est apparu après et n'a jamais été mentionné dans l'article publié. Pour deux chercheurs que nous avons interrogés, cette dénomination est trompeuse pour plusieurs raisons. D'abord, elle donne l'impression que cette Ève était la seule personne à vivre à cette époque-là, alors qu'elle avait évidemment plein de contemporains. Et ensuite, ce nom peut faire croire que l'ADN de nos mitochondries aujourd'hui est parfaitement identique à celui de cette femme vivant il y a 200 000 ans. En réalité, ce qu'on porte, ce sont des descendants de cette mitochondrie qui ont accumulé des mutations au fil des millénaires.
Donc il y a du vrai et du faux dans cette publication virale.
C'est ça. L'intention qui se cache derrière est correcte, selon Laurent Duret, un chercheur que nous avons interrogé du CNRS, tout simplement parce qu'il existe un consensus scientifique autour de l'origine africaine de notre espèce. Aujourd'hui, la plus grande diversité d'ADN mitochondriaux se trouve en effet en Afrique, car c'est là qu'elle s'est accumulée avant que les humains migrent progressivement vers d'autres parties du globe. Notre Ève noire est la seule femme qui a transmis ses mitochondries à tout le monde, mais ce nom d'Ève suggère l'idée d'une femme unique, alors que ça n'est pas le cas. L'Ève mitochondriale est simplement la seule à avoir eu des descendants jusqu'à nos jours qui n'étaient que des femmes.
Vérification faite.
Voilà, une petite incursion dans la génétique pour nous rappeler que les premiers humains sont nés en Afrique et qu'on en a tous gardé quelque chose, manifestement. Merci Marion Lefebvre, journaliste à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse. C'est la fin des Dessous de l'Infox. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à vous présenter cette émission. Attaché de production Florence Ponce, documentation Déborah Lepage, réalisation Hélène Avril. Merci à vous de rester fidèles à ce rendez-vous dont vous pouvez retrouver le podcast sur notre site internet. Et la semaine prochaine, c'est Adrien Delgrange qui présente les Dessous de l'Infox.
François Bernard
vous dit bonsoir et à bientôt sur RFI.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en brasileño.
Todos os dias acompanhe nosso programa em português nos horários de 6h30 e 12 horas, horário de Brasília, para o Brasil.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.
Ici l'Europe.